Vous êtes avec SBS French.
Les principaux titres de l'actualité de ce mardi 7 juillet 2020. La frontière entre le Victoria et Nouvelle-Galles du Sud sera fermée ce soir à partir de minuit dans l'espoir de contenir la pandémie de coronavirus. En France, les membres du nouveau gouvernement dirigé par Jean Castex ont été annoncés hier soir. Et en Italie, l'un des plus grands compositeurs de musique de film, Ennio Morricone, s'est éteint à l'âge de 91 ans. Et on l'apprend à l'instant, l'État du Victoria vient d'enregistrer 191 nouveaux cas de coronavirus. Et l'une des conséquences de ce qui ressemble de plus en plus à une deuxième vague à Melbourne, eh bien, c'est que pour la première fois depuis un siècle, la frontière entre l'État du Victoria et des Nouvelles-Galles du Sud va fermer à partir de ce soir minuit. D'après le Daily Telegraph, entre 350 et 500 militaires ont été déployés le long de la frontière pour s'assurer qu'elle reste étanche. En dehors de Melbourne, deux cas suspects sont en cours d'examen dans la région d'Albury, l'une des plus grandes villes se trouvant tout près de cette fameuse frontière. Et parmi ces deux cas suspects, l'un des deux se trouvait tout récemment à Melbourne, mais il a quitté la ville avant que le confinement n'y soit réinstauré. Et sur la durée de la fermeture de cette frontière, le ministre de la Santé, Greg Hunt, a indiqué sur Seven Network qu'elle se prolongera tant que le nombre de nouveaux cas à Melbourne restera élevé.
It's been indicated that it will be a matter of some weeks at what New South Wales and Victoria and the Commonwealth will jointly want to see is that there's a clear stabilisation and control of cases in the Melbourne region.
La fermeture de la frontière entre les deux États les plus peuplés d'Australie va forcément avoir de très lourdes conséquences sur le plan économique. D'ailleurs, le PDG de l'Australian Industry Group, l'un des principaux employeurs en Australie, a comparé cette fermeture à l'érection du mur de Berlin. À partir de minuit ce soir, on ne pourra effectivement plus passer la frontière entre les deux États, à moins de disposer d'un permis spécial, un permis qui pourra être accordé pour des raisons sanitaires, professionnelles ou pour conduire d'autres activités considérées comme essentielles. Gladys Bérégé-Cléan, la chef du gouvernement des Nouvelles-Galles du Sud, espère que ce système de permis sera disponible dans le courant de la journée. C'est ce qu'elle a confié à nos confrères de Nine Network.
Service New South Wales, hopefully by today, will have that permit system up and running so people can actually apply to get across the border for work purposes or for other essential services. We know there's joint facilities like airports and hospitals, and that's why we're working really quickly. And we knew this would be the case. Once we announced the border was closing, we knew that the first two or three days would be extremely difficult on those border communities.
Les supermarchés Woolworths ont annoncé aujourd'hui qu'ils levaient toutes les restrictions sur l'achat de produits dans leurs magasins, à l'exception de celles concernant le papier toilette. Ces restrictions sur la quantité de produits qu'on peut acheter avaient été remises en place le 26 juin dernier pour anticiper un nouveau phénomène de panic buying réapparu avec l'augmentation du nombre de cas de Covid-19 à Melbourne. Mais cette fois-ci, Woolworths a fait valoir que son circuit logistique était plus à même de répondre à cette poussée de la demande, sauf donc pour le papier toilette pour lequel les consommateurs ne peuvent acheter que deux paquets à la fois. Après la nomination vendredi dernier de Jean Castex comme nouveau Premier ministre de la France, les membres de son gouvernement ont été annoncés hier soir. Parmi les entrants, il y a notamment le très médiatique avocat Éric Dupond-Moretti qui devient ministre de la Justice. Il y en a aussi certains qui faisaient déjà partie du gouvernement d'Édouard Philippe mais qui changent de portefeuille. C'est notamment le cas de Gérald Darmanin qui passe du ministère du Budget à celui de l'Intérieur. Une nomination qui fait polémique puisque Gérald Darmanin est sous le coup d'une accusation de viol. Il va aussi avoir fort à faire dans ce ministère. L'un des plus gros dossiers et les plus urgents à gérer pour lui, ce sera la question très délicate des violences policières. On écoute les explications de Pierre Olivier pour Radio France Internationale.
Gérald Darmanin, un sarkozyste issu des Républicains propulsé ministre de l'Intérieur. Un choix inattendu pour ce poste éminemment stratégique, car en plus de la police et des cultes, c'est aussi la place Beauvau qui est en charge de la carte électorale, dont une réforme pourrait voir le jour avant les prochaines élections législatives. Gérald Darmanin est aussi très attendu sur sa gestion du dossier brûlant des violences et du racisme dans la police. C'est d'ailleurs lors de son discours du 8 juin dernier sur ce même sujet que son prédécesseur Christophe Castaner, ancien socialiste, s'était mis à dos les syndicats de policiers, estimant ne pas être suffisamment soutenus par leur ministre. Il reviendra donc à Gérald Darmanin d'assurer un soutien total de l'exécutif envers les forces de l'ordre. La ligne du nouveau ministre sur cette question devrait d'ailleurs être plus ferme que celle de Christophe Castaner. Dimanche déjà, Jean Castex, le Premier ministre, affirmait aux policiers qu'il pourrait compter sur un soutien et une reconnaissance sans faille du gouvernement. Enfin, Gérald Darmanin devra aussi composer avec un caillou dans sa chaussure, la plainte pour viol le concernant dont l'enquête a été rouverte il y a un mois. Selon l'entourage du nouveau ministre de l'Intérieur, il ne s'agit en rien d'un obstacle à sa nomination et les choses évoluent dans le bon sens.
Et nous reviendrons en détail sur ce remaniement ministériel d'ici quelques minutes dans le journal des actualités en France. Sur un tout autre sujet, la lutte contre le virus du sida tend à s'affaiblir et cela inquiète l'agence internationale ONU-SIDA. Winnie Bianiman, la directrice exécutive d'ONU-SIDA, estime que les efforts déployés contre cette maladie ne sont pas suffisants. C'est ce qu'elle a expliqué à Simon Rosé de RFI.
These achievements have not been shared equally within countries and between countries.
Nos succès n'ont pas été équitablement répartis dans les pays et entre les pays. Les objectifs mondiaux que nous nous sommes fixés ne sont donc pas atteints. 1 700 000 personnes ont été contaminées l'an dernier. C'est 3 fois plus que ce que l'on visait. Il y a en plus de grandes disparités. Le nombre d'infections diminue en Afrique subsaharienne, mais il augmente en Europe de l'Est et en Asie centrale. 72% en plus. Il augmente également en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. 690 000 personnes sont mortes l'an dernier de maladies liées au sida. L'objectif était 500 000. Là non plus, nous n'avons donc pas réussi. 95 000 de ces personnes avaient moins de 15 ans. Nous avons pourtant les traitements pour permettre aux gens de vivre longtemps. 38 millions de personnes vivent avec le VIH. 25 millions d'entre elles ont accès aux médicaments. C'est un vrai progrès. Mais cela veut également dire que 13 millions de malades ne sont pas traités. Nous avons du pain sur la planche.
Et un nouveau satellite espion flotte depuis hier soir dans l'atmosphère. Il a été mis en orbite par l'État d'Israël qui cherche ainsi à renforcer ses capacités de renseignement, en particulier vis-à-vis de l'Iran. Guillaume Deltel sur place nous donne toutes les explications.
C'est un accomplissement extraordinaire, a salué le ministre de la Défense. Seuls 13 pays dans le monde ont la capacité de lancer un satellite, souligne Benny Gantz. Mais ce satellite de surveillance est surtout important sur le plan stratégique, juge Sima Shain, chef du programme Iran à l'Institut pour les études sur la sécurité nationale, un centre de recherche israélien.
Je ne pense pas que cela change radicalement la situation et les possibilités, mais Israël a mis en orbite un outil important qui lui permet de décider où regarder, comment regarder, d'avoir en temps réel des évaluations des lieux, de situations. Je pense que c'est important.
Israël a lancé son premier satellite OFEC en 1988, mais celui-ci, présenté comme un satellite de reconnaissance électro-optique aux capacités avancées, est censé offrir de nouvelles possibilités dans le domaine du renseignement. Le ministère de la Défense n'a toutefois rien dévoilé de ces nouvelles capacités et il faudra encore plusieurs jours aux responsables sécuritaires du pays pour savoir si le satellite est pleinement fonctionnel. Il est actuellement en phase de test. Guilhem Delta, Jérusalem, RFI.
L'un des plus grands compositeurs de musique de film est mort hier à Rome. Il s'agit d'Ennio Morricone, décédé à l'âge de 91 ans dans une clinique de la capitale italienne. Il a au cours de sa carrière réalisé la musique de plus de 500 films. Retour sur un parcours exceptionnel avec Anne Lenir.
Un génie absolu, un homme simple, discret, pour les Italiens, Ennio Morricone incarnait les plus belles valeurs de leur pays. Parmi les premières réactions, celle du chef du gouvernement, Giuseppe Conte. Il nous a fait rêver, réfléchir, en écrivant des notes qui resteront pour toujours dans l'histoire de la musique et du cinéma. Pour le président de la République, Sergio Mattarella, le décès d'Ennio Morricone prive l'Italie d'un grand artiste qui a renforcé le prestige du pays au niveau international. Et même l'Église, par la voix du cardinal Gianfranco Ravazzi, chargé de la culture au Vatican, salue le maestro qui avait reçu en 2019 la médaille d'or du pontificat. Les funérailles d'Ennio Morricone se dérouleront sous une forme privée, dans le respect du sentiment d'humilité qu'il a toujours guidé, a annoncé un porte-parole de sa famille. Anne Lenir, Rome, RFI.
Et pour finir ce journal, on jette maintenant un œil à la météo de ce mardi. Quelques averses à Perth où il fait aujourd'hui 17 degrés, 14 degrés et des nuages dans le ciel d'Adélaïde, 14 degrés également à Melbourne, seulement 10 degrés à Hobart, 18 degrés à Sydney où il pourrait pleuvoir en fin de journée. En revanche, grand soleil à Brisbane où le thermomètre affiche 23 degrés, 27 degrés à Cairns et jusqu'à 32 degrés à Darwin aujourd'hui.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.